Les deux sujets sur lesquels on peut partager, il y a un sujet très difficile. Donc, si vous trouvez ça trop difficile, eh ben, vous sautez et vous passez au deuxième sujet. Hein? Ça ne sert à rien de prendre du truc trop difficile. Premier sujet difficile. Y a-t-il une personne, un événement, une situation qui a pris soin de moi de façon décisive? Autrement dit, est-ce que je vois ma vie et mon entourage comme une auberge où les autres sont chargés par le Seigneur de prendre soin de moi? Je propose comme deuxième sujet de partage les six phrases que j'ai dites au début. Je les répète, elles sont sur le papier. Hein. Tu es libre, tu vaux plus que tu ne crois, ta vie c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en toi et par toi. Si du bois de l'eau que je te donnerai, ta vie deviendra une source jaillissante pour la vie éternelle. Avance en eau profonde, n'aie pas peur, là où tout était échec va devenir pêche miraculeuse. Et je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Pour moi, ces six phrases résonnent de la même chose. Mais pour vous, peut-être pas. Donc je vous propose de partager quelle est celle de ces six phrases qui me touche et pourquoi. Pour moi, c'est « Si tu bois de l'eau que je te donnerai, ta vie deviendra une source jaillissante pour la vie éternelle. » C'est un moteur pour moi de croire que c'est possible, que c'est ma vie, que si je reçois la parole de Dieu, c'est pour ça. Et qu'il y a une source en moi de vie éternelle. Toute la révélation chrétienne, c'est de dire que le Seigneur, il n'est pas là-haut. Il est venu demeurer en moi, à nous, à ouvrir la porte. Alors j'ai 5 feuilles devant moi, 5 sur 9, on va dire qu'elles sont représentatives des 9 groupes. Je vais commencer par la dernière phrase de la dernière feuille que j'ai reçue. On parle des gens qui ne s'en sortent pas, mais qui s'en sort? Eh bien celui qui a écrit cette phrase a tout compris et j'ai pas grand chose à rajouter. Qui s'en sort? Ça n'existe pas quelqu'un qui s'en sort complètement. Une remarque. Jésus ne s'en est pas sorti. Sinon, il n'aurait pas été sur le bois de la croix. Ça fait partie de la nature humaine de ne pas maîtriser tout. Et il y a un truc où de toute façon on ne maîtrise pas complètement, c'est notre foi. Quel est celui qui aurait le culot de dire que dans le domaine de la foi, oh, ça va, ok, c'est tout bien. Non, c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Et le Christ lui-même a été, je ne sais pas si c'est une interprétation juste, dans le doute jusqu'à dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne s'en sort pas à ce point-là. Et nous, on est dans cet état. On est dans cet état-là. Et on peut l'être toute notre vie. Donc la personne qui me dit « Mais qui s'en sort ?» Je trouve qu'il a tout compris. Plein de lignes qui se ressemblent sur « Faut-il s'aimer soi-même pour être libre ? Devenir libre, oui, mais à quel prix ? Tu es libre, en quel sens faut-il entendre cette liberté ?» Je crois, alors là, c'est mon expérience spirituelle que je veux vous partager, que l'évangile de Jésus, sa parole, et ce n'est pas seulement le texte de l'évangile, la parole de Dieu, elle s'exprime au moins autant par la communion fraternelle, par la parole de l'Église, par notre expérience intime de relation avec Dieu. La parole de Dieu, ça n'est pas que le texte. La parole de Dieu est libératrice. Dieu est venu, le Seigneur, dans son incarnation, est venu nous libérer de nos liens, de nos servitudes. Il y a quand même un texte où c'est même dit, c'est à la résurrection de Lazare. Donc il dit Lazare sort, et puis Lazare sort tout plein de bandelettes, défaites-lui ses liens. La résurrection de nos vies, c'est de nous libérer de nos servitudes, de tous nos liens, de toutes nos dépendances. Dépendance, par exemple, du regard des autres. Par exemple, des rejets de telle ou telle communauté ou de notre famille. Toutes ces blessures qui laissent des traces non cicatrisées et qui nous bloquent dans notre communion libre avec les autres. J'attache énormément d'importance. Le mot libre n'apparaît pas beaucoup dans l'Évangile. Il apparaît une fois de façon décisive. La vérité vous rendra libre. Ça doit être au chapitre 10 ou 11 de Saint Jean. 10 de Saint Jean. La vérité vous rendra libre. Ce qui nous rend libre, c'est la vérité. Alors, dans le sens de l'Évangile, c'est la vérité, c'est la connaissance de Dieu. Mais je crois qu'il faut le prendre de la façon la plus large possible du mot vérité. C'est la vérité, au sens le plus simple, sur ce que l'on vit. Il y a une parole, il y a un des textes, attendez, qui est sur le déni. Déni de vérité, déni de sa propre souffrance, déni de son homosexualité. Comment peut-on recevoir cette parole « Tu veux beaucoup plus que tu ne crois ?» Je crois qu'effectivement, le déni est là et la vérité est là. Ce que la parole de Dieu nous invite, c'est à faire la vérité parce que la vérité nous délivre. Alors, je ne veux pas rentrer dans la situation particulière du come out qui est une forme de vérité. Je veux parler de la vérité d'être dans la vie, de ne pas avoir deux vies, une vie extérieure où on s'en sort, par exemple socialement, financièrement, familialement, etc. Et puis une vie intérieure où on ne s'en sort pas parce qu'il y a un décalage entre la vie extérieure et la vie intérieure. C'est ça la vérité que l'on doit demander au Seigneur de nous aider à trouver. Alors, ça ne se trouve pas tout seul la vérité, mais vous êtes dans les meilleures conditions qui soient pour faire la vérité. Parce que vous êtes en fraternité, frère de Jésus-Christ, c'est-à-dire attaché justement à cette vérité. Ce qui vous lie les uns aux autres, c'est cette vérité d'attachement au Christ. Donc vous êtes dans les meilleures conditions. D'autre part, le partage que vous avez en fraternité est dénué au maximum qu'il est possible humainement du jugement. C'est un trésor. C'est ça qui peut permettre le plus de vérité possible sur son être profond. Et le deuxième moyen pour faire la vérité, c'est, je crois, la seconde expérience, de faire cette relecture spirituelle de sa vie pour voir en vérité où est-ce que le Christ m'a rencontré. Et c'est peut-être dans des moments pas très glorieux, peut-être, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de faire la vérité, un regard de vérité. Nous savons que le Seigneur, il le vit, il s'approcha, il le toucha. C'est un regard de vérité, ce regard du Seigneur sur nous. À nous, à avoir aussi un regard de vérité sur nous-mêmes. En tout cas, à l'opposé du déni. On sait prendre soin des uns les autres, ou on peut savoir, mais comment saurais-je prendre soin de moi? Et puis, il y a une autre phrase qui est un peu pareille. C'est « Faut-il s'aimer soi-même pour être libre ?» Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, pour être moins miséricordieux vis-à-vis de soi-même que le bon Dieu. On a une tendance à être plus dur envers soi-même que le bon Dieu. Le bon Dieu, quand je répète ce que j'ai dit ce matin, quand il s'approche du blessé, il ne le dit pas « Pourquoi t'es passé par là ? Pourquoi tu t'es pas battu contre le mal ? Pourquoi tu savais que c'était un mauvais chemin ? Comment ça s'est passé quand ils t'ont battu ?» Non. Il n'y a rien de tout ça entre le Seigneur et nous. Entre le Seigneur et nous, il n'y a que « Il s'approcha, il toucha ses plaies, il les soigna. » Donc, je trouve que, je fais le parallèle, pourquoi serions-nous plus durs avec nous-mêmes que le Seigneur qui est infiniment miséricordieux? Donc on est facilement bon prochain pour les autres et pas très bon prochain pour nous-mêmes. On met des barrières de jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Et ces barrières de jugement peuvent reproduire le regard des autres qui vous jugent comme t'es pas conforme, t'es pas bien, tu te conduis pas bien, etc. Non, 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 non. Il n'y a aucune raison d'avoir un jugement sur nous-mêmes qui est moins miséricordieux que le jugement de Dieu sur nous. C'est ça que j'appelle s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une question difficile et auquel je ne sais pas si je suis capable de répondre. Est-ce que Dieu prend plus de soin de ceux qui lui font confiance que ceux qui ne lui font pas confiance? Alors, je ne suis pas Dieu et je ne connais pas la pensée de Dieu et sa façon de faire à ce point-là. Je m'attache quand même à l'Évangile, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Je fais confiance à une autre phrase de l'Évangile. Ne coupez pas l'ivraie, vous risqueriez de couper le blé en même temps. C'est pas à nous à faire le tri. C'est pas à nous à dire il fait confiance à Dieu, donc il va être exaucé. Il fait pas confiance à Dieu, donc il va pas être exaucé. C'est pas notre affaire. Notre affaire est d'être frère de tous et d'être en communion avec tous, envers et contre tout. Et la parabole de l'ivraie me parle énormément. Ne faisons pas le tri sur terre entre les bons et les méchants. Ce n'est pas à nous à le faire. Nous, on est frères de tous et on pardonne à tous, non pas cette fois, mais 77 fois cette fois, non pas pour les petites choses, mais y compris pour les grandes. Et si on veut être des hommes de paix, c'est avec tous et pas seulement ceux qui sont d'accord. Si vous êtes d'accord seulement avec vos amis, que faites-vous de plus que les païens? Donc, la question, est-ce que Dieu prend plus soin de ceux qui lui font confiance par rapport à ceux qui ne lui font pas confiance? Moi, j'ai tendance à répondre non. Il prend soin au moins autant de ceux qui lui font confiance que de ceux qui ne lui font pas confiance. Et si je fais confiance à Dieu, c'est pas pour qu'il prenne encore plus soin de moi que si je ne lui faisais pas confiance. C'est parce que je le remercie de me faire du bien, gratuitement. Et en tout cas, c'est pas par un calcul entre ceux qui lui font confiance et ceux qui ne lui font pas confiance. Donc je réponds par la négative à la question. Ce que je dis là est parfaitement discutable, n'est pas parole d'évangile ni parole d'église. C'est parole de moi, mon expérience, ma pensée, tout ce que... C'est parfaitement discutable. Donc si vous vous opposez, dites-le. Si vous pensez qu'on est à côté de la plaque, dites-le. Soit en grand groupe, soit en petit groupe, soit dans votre tête. Si j'attends trop de mon entourage, je ne suis plus libre. Je suis frustré. Où se situe la limite de l'équilibre? Je ne connais pas la situation particulière qui a dicté cette parole. Donc, je vais être très modéré dans ma réponse. Si j'attends trop de mon entourage, il n'est pas évident, quand on pense par exemple aux entourages familiaux, que ce soit de là qu'il faille attendre la parole qui me redonne vie. Ce n'est pas sûr du tout. Personnellement, c'est pas dans ma famille, c'est pas dans ma paroisse, c'est pas dans mon milieu professionnel, c'est pas dans mon immeuble que j'ai trouvé les choses les plus encourageantes pour ma vie chrétienne et ma conversion. C'est plus de fait, dans ma communauté Foi et Lumière, ma femme. Donc je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur quel est le regard de mon entourage. Est-ce que si je ne suis pas bien avec mon entourage proche, est-ce que ça m'empêche d'être libre, etc. Toutes ces questions. Moi je crois que il faut demander, ça vaut le coup de demander au Seigneur de nous donner des frères qui prennent soin de nous. Ça, il faut le demander, il faut prier pour ça, il faut l'attendre, il faut le vouloir. mais ses frères ne sont pas forcément l'entourage au sens habituel du terme. Ils sont peut-être assez lointains. Ils sont peut-être seulement dans Dueck. Ils sont peut-être un ami. Ils sont peut-être, je ne sais pas. Ce qui vaut le coup, en tout cas ce qu'il faut, c'est qu'on soit jamais seul et non entouré. Mais ce n'est pas forcément l'entourage au sens habituel du terme. Donc, si j'attends trop de mon entourage, je ne suis plus libre. Je le comprends, mais je ne suis pas sûr de comprendre la demande de la personne. Si je suis trop dépendant de mon entourage proche, non, il n'y a pas à être dépendant de son entourage proche. On a à vivre en bonne société, mais là où on attend la parole du Seigneur, ça peut ne pas être de mon entourage proche. Le bon samaritain a porté le blessé. Comment se porter les uns les autres dans nos difficultés, dans nos vies? Alors, je donne d'abord une réaction instinctive, hein, émotionnelle. Ben, vous le faites. Vous le faites très bien. Sinon, vous ne seriez pas là. Qu'est-ce qu'on fait à se parler, à prier ensemble, à se servir les uns les autres, à partager, si ce n'est prendre soin les uns des autres? Donc, un, vous le faites. Comment se porter les uns les autres dans nos difficultés? Alors, c'est la limite du partage. Où aller le plus loin possible dans la liberté du partage, où on peut dire en vérité nos larmes, nos joies, nos réactions vraiment intérieures, notre foi? Ça, je trouve qu'il faut faire confiance au groupe de passage que vous avez mensuellement pour porter les uns les autres plus loin, infiniment plus loin que dans la vie sociale extérieure. On a une vie sociale où on ne partage pas grand-chose avec nos voisins, avec nos collègues de bureau et avec nos voisins de palier. À nous à trouver ce lieu de partage pour qu'il devienne un lieu de communion. Un lieu de communion où on a la vérité qui est à l'opposé du déni dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça, se porter les uns les autres. Se porter les uns les autres, c'est avoir le souci les uns les autres. Je suis très sensible au chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. C'est tout le grand discours de Saint Paul sur le corps. Tous les membres sont nécessaires les uns les autres, le pied a besoin de la tête et la tête a besoin de la main. Il termine par la chose suivante. Si Dieu a choisi les membres les plus faibles, sous-entendu volontairement, délibérément, c'est afin que nous ayons un commun souci les uns des autres et qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est ça qu'on cherche. Donc ce qu'on cherche se base sur le fait que Dieu a choisi les membres les moins honorables pour constituer la communauté. C'est une référence que je vous donne parce qu'elle m'a porté et elle me porte toujours dans la conviction qu'une communauté qui prend en charge vraiment nos faiblesses mutuelles, elle est sûre de faire un choix comme le choix du Seigneur qui conduit à ce qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et ce qu'on cherche, c'est qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Devenir un en Christ, c'est qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Eh bien, l'articulation, c'est d'imiter le choix de Dieu de choisir les membres les plus honorables, les moins honorables, pour constituer la communauté. C'est nous, les membres les moins honorables, choisis par Dieu pour constituer la communauté. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. C'est une traduction, hein. L'amour était évidemment sous-jacent à ce que vous avez dit, je vous remercie. Que pensez-vous de cet amour? Point d'interrogation. Alors là, je suis désolé, mais on est reparti non seulement pour un tour, mais pour toute notre vie. Hein. Que pensez-vous de cet amour? la question est trop large, donc je ne répondrai pas. Et de l'aubergiste, l'ange missionné. Là, j'en reparlerai pour réinsister. Que nous avons besoin d'anges missionnés. Bon, j'ai cité le cas de Vincent, qui pour moi avait été un ange missionné. C'est un cas particulier, c'est ma situation. Mais que chacun est un ange missionné, un ange, ou une situation, ou une communauté, ou une parole, ou un texte, ou un moment de sa vie, ou une étape de sa vie. Missionné pour redire ces paroles de Jésus qui me libèrent. Je vous ai donné ces 6 phrases que je trouve libératrices, qui pour moi sont libératrices, qui disent toutes les 6 la même chose. Je ne sais pas si vous avez partagé sur ces 6 phrases, peu importe, ça n'apparaît peu dans les textes qui me sont donnés, mais peu importe. Nous avons besoin d'anges missionnés, parce que nous ne recevrons pas par une voie mystique en direct du Seigneur ces choses-là. Nous le recevrons d'une personne. Et nous avons besoin. Donc c'est un rôle de la communauté, bon, vous, de Dueck, mais ce serait un rôle des communautés chrétiennes en général, que les uns les autres, nous nous disions ces paroles. Tu vaux plus que tu ne crois. Ta vie, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Si tu bois de la parole que je te donnerai, enfin, si tu reçois la parole de Dieu, ta vie deviendra une source jaillissante pour la vie éternelle. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et c'est promis, et c'est une promesse du Seigneur. Et cette promesse du Seigneur, elle a été faite à une pauvre femme. La Samaritaine, c'est vraiment une pauvre femme. Mais c'est une pauvre femme dans tous les sens du terme. Elle a 5 hommes dans sa vie, et le 6e, c'est pas son mari, elle s'est même plus. Bon. Et c'est une Samaritaine, et je dis que les Samaritains, vu des Juifs, c'est les pauvres étrangers qu'on ne veut pas. Enfin, bon, c'est une pauvre femme. Le Seigneur choisit une pauvre parmi les pauvres pour lui dire « Ta vie deviendra une source jaillissante pour la vie éternelle. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi ?» Et on a du mal avec nos histoires personnelles à croire que notre vie, quelle qu'elle soit, peut devenir source jaillissante pour la vie éternelle. C'est-à-dire plus que toutes les œuvres humaines. Hein? On ne peut pas plus. On ne peut pas plus.